Espace femme.
Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace Femmes de Studio Kalangou consacré aux questions d'actualité ou de société que se posent particulièrement les femmes. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui mobilise énormément les femmes du Niger. Les organisations de femmes Mata Massoudou Bara, communément appelées MMD, comment ont-elles évolué depuis leur création, leurs activités et leur philosophie interne? Les organisations Mata Massoudou Bara sont des programmes par excellence pour le leadership des femmes, des jeunes et pour l'autonomisation de la femme. Pour mieux comprendre, j'accueille ce soir Madame Aminatou Daouda Hainikwai, chef du programme promotion de l'équité, égalité sociale et de la société civile Promesse à Caire Niger. Bonsoir Madame Aminatou.
Bonsoir.
Et Madame Niendou Maimouna, chef de division allègement des tâches des femmes entrepreneuriat féminine à la direction de l'autonomisation économique de la femme. Bonsoir Madame Maimouna.
Bonsoir.
Et à la présentation, Rafika Taher. Bonsoir à tous. Les indicateurs socio-économiques des années 1991 ont démontré que les femmes, plus exactement dans les milieux ruraux, faisaient face à d'énormes difficultés. Elles étaient confrontées à des problèmes financiers, d'autonomisation et d'un manque de confiance en elles. Cependant, avec l'avenue des microfinances Mata Massoudou Bara, qui signifie « femme ingénieuse » en Hausa, la situation a tendance à changer. Madame Aminatou, pouvez-vous nous dire quand, où et comment est né le premier groupement MMD au Niger et quelles sont les qualités requises pour être un membre?
Et merci Madame Rafika. Mais avant de répondre, je m'en vais d'abord remercier la radio Kalangou et pour cette opportunité qu'elle nous a offerte aujourd'hui. Le mouvement MMD est un mouvement dont le sigle MMD signifie Mata Massoudou Bara, c'est en Hausa. Et en français, ça signifie les femmes ingénieuses. A vu le jour en 1991 à Maradi, précisément dans le village de Kagdama, c'est dans la commune de Guidenroumji. Ce mouvement est né suite à un constat selon lequel les femmes n'ont pas accès à des services financiers de base. Et il faudrait que les femmes en tant que citoyennes puissent pourtant contribuer non seulement dans la gestion du ménage, de la communauté et au-delà, participer aux actions de développement du pays de façon générale. Donc le constat ainsi dressé par Caire à l'époque et lui a amené quand même à identifier est-ce que dans cette communauté, on peut trouver une pratique qui est assez connue et assez acceptée par l'ensemble de la communauté. Et il s'est avéré qu'il y avait la tontine traditionnelle qui est connue et pratiquée par tous au niveau rural tout comme dans le monde urbain. Donc, Caire avait bâti sa stratégie sur cette pratique vraiment de tontine traditionnelle avec d'autres éléments, notamment la solidarité entre les membres, l'élément d'affinité. Et de par les études qui ont suivi, ces éléments-là ont été quand même fondamentaux dans la suite du mouvement MMD, le fait que ces femmes soient restées connectées. Parce que non seulement il y avait la tontine qui les réunissait une fois par semaine, où d'un commun accord, elles ont fixé une mise hebdomadaire, mais en vertu du principe de solidarité et d'affinité entre les membres. Par exemple, si 5 peuvent cotiser à hauteur de 100 ou 200, il peut y avoir qu'une ou deux ne pouvaient pas. Du coup, ce qui prédomine, c'est l'esprit de solidarité et d'affinité. Donc, du coup, les autres vont accepter de se ramener à l'image des autres. Et jusqu'à ce qu'elles pensent que le temps qu'elles ont mis en train de cotiser peuvent le permettre. Et une fois qu'elles décident de partager, ça peut leur constituer un fonds de démarrage pour dérouler leurs activités génératrices de revenus.
Quelles sont les qualités requises pour être un membre des groupements MMD?
Il faut savoir que les MMD sont régis par la loi coopérative. Parce que le modèle a quand même été pensé et mis en œuvre au niveau du monde rural, notamment auprès des couches les plus vulnérables, qui sont les femmes. Donc, ces femmes-là, quand elles ont commencé à se regrouper, au maximum 25 par groupe, vont au niveau de la collectivité, notamment les communes, pour enregistrer leur groupement sous le régime de la coopérative. Pour que cela soit, il leur faudra quand même élaborer des tests de création, notamment le statut et le règlement intérieur. Elles ont également un plan d'action et une vision qui est commune à toutes les membres et que chacune s'active à remplir ses obligations en tant que membre. Et c'est comme ça que ces groupes-là ont fonctionné avec, bien sûr, une bonne gouvernance en matière de gestion à l'interne.
Madame Maïmouna, comment est-ce que le ministère de la promotion de la femme accompagne ces groupements MMD?
Merci. J'emboîte le pas à ma collègue Amina pour remercier vraiment le studio Klangou de l'opportunité qu'il nous offre. L'initiative de MMD, là, à son démarrage, on a beaucoup travaillé avec l'organisme initiateur qui est CAIR International. Le ministère a été associé dans l'accompagnement, dans l'appui technique, dans la facilité aussi du point de vue administratif. Donc, toutes les actions que menait cet organisme, disons, auprès de ces femmes-là, le ministère a été là et tout ce qui est appui administratif, le ministère l'assure. Partant du fait qu'en ce moment, le ministère n'avait pas surtout le personnel à tous les niveaux, l'appui venait du niveau régional et national. Parce que en ce temps-là, quand les groupements voyaient le jour en 91, quand ça a commencé, le ministère n'avait pas vraiment de services déconcentrés jusqu'au niveau des départements et des communes. Donc, l'appui du ministère pour ces groupes, c'est vraiment l'appui administratif et également de la facilité des démarches, également l'enregistrement, toutes les actions que le ministère envisage auprès des groupements. Donc, c'est un groupe potentiel qui est là à travers ces MMD.
Madame Amina, comment est-ce que vous accompagnez ces groupes?
Et ces groupes, nous les accompagnons à travers un partenariat qui est signé entre CAIR et les ONG locales. Par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre de cette phase du MMDE qui s'appelle Promesse 2, Promotion pour l'équité et l'égalité sociale et de la société civile, et nous avons signé des sous-accords avec des ONG nigériennes qui interviennent sur les questions de promotion de la femme, du genre, leadership féminin, etc., etc., au nombre de 4, et notamment leadership Challenge à Maradi et AFV à Zender, à Niamey, Tillabéri, ISCV, de même que à Koni. Donc, ce n'était pas une mise en œuvre directe. Ça fait quand même plusieurs décennies que CAIR a décidé pour des questions vraiment de transfert de compétences, de redevabilité surtout, amener les ONG locales à avoir la main, à prendre en charge les initiatives parce qu'elles sont celles qui sont proches des communautés et celles qui, un jour, quand CAIR serait amené à quitter, seront là pour quand même rester et accompagner les communautés. Et surtout que l'un des objectifs de ce programme est le renforcement des capacités de la société civile. Qui parle de société civile parle vraiment des structures, des groupes organisés qui sont régis par la loi associative et d'ONG dont, en tant qu'organisme international, CAIR s'est donné l'obligation librement de les accompagner pour qu'elles soient autonomes et pour qu'elles puissent vraiment répondre aux besoins de la société civile. Parce que pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait des demandes de redevabilité des communautés vis-à-vis de leurs élus, il faudrait quand même que les communautés soient renforcées. Mais quand même, nous avons quelques activités qui nous reviennent en tant qu'organisation pour des questions de visibilité ou bien des activités de grande envergure pour appuyer ces ONG. Toujours nous mettons ces ONG, soit elles seules ou bien nous leur venons en renfort pour réaliser un certain nombre d'activités.
Et dans combien de régions du pays sont-elles implantées, MMD?
Cette phase du MMD que Promesse intervient dans 5 régions du Niger, et notamment Niamey, Tillabéri et Tawa, notamment à Koni, Maradi et Zender. Et dans ces régions, nous intervenons dans 5 communes de chacune des régions, ce qui nous fait 25 communes d'intervention sur l'ensemble du pays.
25 communes d'intervention. Et combien de femmes chaque groupement doit contenir?
Et chaque groupement
Et il vous avez en tout combien de femmes MMD?
En fait, nous avons un système qui est ouvert pas seulement au Niger. C'est une plateforme dans laquelle tous les pays qui utilisent et ces modèles MMD sous d'autres appellations, bien sûr, soit VSL ou AVEC, hébergent leur groupe. Et ça s'appelle la plateforme SAVIX. Et dans SAVIX, nous avons à la date d'aujourd'hui 641 149 membres et qui tournent autour de 20 000 groupements, 350 réseaux et 34 fédérations.
Donc, selon le rapport global de suivi des programmes libérés pour 2013, le fonds de roulement des AGR pratiqué par les femmes MMD a connu une évolution positive dans les temps. En tour de table, pouvez-vous nous dire comment est-ce que ces femmes se sont organisées pour leur activité génératrice de revenus et quelles sont les mesures de contribution que vous prenez pour cette évolution? Madame Maïmouna.
Avant l'avènement de la décentralisation, l'octroi de l'agrément provenait de nos services déconcentrés. Donc, le principal appui du ministère et de ses services déconcentrés en direction de ces groupements, c'est vraiment la facilité d'octroyer les documents d'agrément pour les groupements et leur faciliter la recherche d'appui pour leur activité génératrice de revenus. Pour ce qui est de leur façon de s'organiser, ça dépend de la nature des activités. Il y a des activités qu'elles mènent de façon collective et des activités individuelles qu'elles mènent. Dans la recherche de partenaires, quand il y a des activités de renforcement des capacités ou bien de mobilisation sociale par rapport à cette direction, nous faisons appel et nous soutenons ces groupements-là en fonction de leurs besoins et en fonction de la demande qu'elles formulent au niveau de nos services.
D'accord, Madame Amina. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que ces femmes s'organisent pour leur activité génératrice de revenus et aussi les mesures de contribution que CARE apporte pour leur évolution?
Par rapport à l'organisation des femmes, et ce qu'il faut comprendre au-delà de leur inscription, selon les modalités prévues par la loi, il faut savoir qu'elles disposent, l'ensemble de ces groupes-là, des plans d'action. Et c'est à l'intérieur de ces plans d'action qu'elles déclinent leurs activités. Et vous pouvez voir des activités communes à l'ensemble des membres ou bien des activités individuelles. Du point de vue de la structuration de nos groupes, il faut d'abord comprendre qu'il y a le premier niveau qui est le groupement. Ça, c'est vraiment le niveau basique où on apprend à ces gens l'éducation financière, à épargner et qu'à la fin, elles vont se partager l'épargne pour que chacune puisse aller exercer dans une activité économique de son choix. Donc, nous leur administrons un certain nombre de modules en termes de renforcement des capacités, fondamentalement l'éducation financière. Donc, c'est à ce niveau que CARE s'est rendu compte qu'après combien d'années d'accompagnement de ces femmes, et surtout les femmes rurales qui n'ont pas de niveau d'éducation, elles ne peuvent pas exceller dans leurs activités génératrices de revenus si elles ne sont pas alphabétisées. Du coup, le programme a rajouté la composante alphabétisation qui aujourd'hui prend de l'ampleur au sein même du programme parce que jusqu'au tiers du budget est vraiment affecté à cette composante. Tant que ces femmes ne sont pas alphabétisées dans leur langue, elles auront du mal à exceller dans les affaires. Donc, nous avons fait de cela un défi et aujourd'hui, c'est un défi gagné parce que sur l'ensemble de nos membres, il n'y a pas un seul village où vous partez où les femmes n'ont pas bénéficié d'alphabétisation. Il y a d'autres modules complémentaires qu'avec l'évolution des choses qu'elle a eu à augmenter, notamment sur la résilience, sur les changements climatiques. En tout cas, toutes problématique qui est d'actualité dans la communauté est prise en compte. Maintenant, au niveau des réseaux, qui est composé par un certain nombre de groupements et qui, en termes de membres et en termes de cotisations, est un niveau beaucoup plus essentiel que le niveau groupement. C'est à ce niveau-là aussi que vous verrez beaucoup plus d'activités génératrices de revenus collectives à une envergure vraiment moyenne appréciable. Et c'est toute une chaîne qui est là et où les femmes travaillent selon vraiment leur capacité et leur âge jusqu'à la commercialisation. Ça, nous avons décaparé un peu partout dans nos régions d'intervention. Et le troisième niveau, c'est le niveau des fédérations qui, avec les besoins, les femmes se sont rendues compte qu'aujourd'hui, elles disposent d'un réseau très, très large des femmes qui sont structurées dans ces mouvements et elles ont compris que les besoins pratiques sont vraiment satisfaits. Maintenant, elles se sont attaquées aux besoins stratégiques, notamment toutes ces questions de participation politique des femmes, scolarisation de la jeune fille, santé sexuelle et reproductive, lutter contre le mariage de ses enfants, etc., etc. Donc, les femmes sont sorties pour embrasser ces domaines-là aussi, qui les permettront de jouir effectivement et pleinement de leurs droits en tant que citoyens. Donc, ça fait que aujourd'hui, dans les zones d'intervention du programme, sur 4 femmes élues conseillères municipales, les 3 sont des femmes ici du mouvement MMD. On est convaincu que la situation des femmes au Niger ne puisse connaître un réel changement que quand ces femmes elles-mêmes soient au cœur même du, particulièrement les femmes rurales.
Que Madame Maïmouna, revenons-en aux activités génératrices de revenus. Oui, mais comment est-ce qu'elles utilisent les fonds récoltés grâce à ces activités?
L'utilisation est diverse. Au sein de la famille, le besoin prioritaire, c'est vraiment de mettre sa famille à l'abri de la faim et de la soif. Donc, la première utilisation, ça se fait au sein de la famille. Assurer le quotidien, bien que on sait que c'est les hommes qui le font. Mais dans la majorité des cas, Amine disait que c'était des femmes vulnérables qui s'organisaient et vraiment par l'entraide. Donc, vraiment, c'est les besoins prioritaires de la famille. Donc, la santé, l'alimentation de la famille et la scolarisation des enfants. Donc, avec le temps, les femmes arrivent à épargner et leur épargne, elles l'utilisent pour l'achat des petits ruminants pour faire face à d'éventuels ou bien des projets plus consistants. Donc, au niveau stratégique, les recettes générées sont utilisées pour développer d'autres activités qu'elles gèrent de façon collective.
Et donc, l'évolution du nombre de groupements MMD prend de l'ampleur au Niger parce qu'aujourd'hui, ce réseau est constitué de plus de 700 000 membres, n'est-ce pas? Avec une capacité de mobilisation financière en 2017 de 2 milliards d'après Care Niger. Madame Aminatou, comment expliquez-vous ce chiffre?
C'est facile de l'expliquer tout simplement parce que c'est des stratégies qui ont été mises en place par CARE et ses partenaires et beaucoup plus aussi par les autres parce que ce qu'il faut notifier au passage, ce modèle MMD aujourd'hui quand même repliqué par les autres organismes internationaux qui interviennent au Niger sur cette question d'autonomisation économique des femmes. Donc chacun travaille de son côté et selon sa zone d'intervention pour non seulement susciter l'engouement et ce modèle a permis de voir que la vulnérabilité de cette cible n'était pas quelque chose qui l'empêche de se réveiller. En fait, le modèle a pu mettre en lumière la capacité intrinsèque dont disposent ces femmes malgré leur degré de vulnérabilité quand elles sont accompagnées, quand on les renforce en termes économiques et la force en termes de poids numérique que les femmes constituent. Vu le nombre de groupes, 20 000 groupements quand même pour tout le Niger, dont le minimum pour un groupe est constitué de 22 membres et que le montant peut varier de 25 francs à 100 francs en termes de cotisation hebdomadaire qui sont maintenant redistribués pour être injectés dans des activités génératrices de revenus. Pour moi, c'est cette éducation financière. Parce que dès qu'elles rentrent dans le groupe, c'est vraiment le premier module auquel elles font face. Aujourd'hui, le défi pour CARE et ses partenaires, c'est cette inclusion financière. Comment est-ce que nous pouvons faciliter aux femmes l'accès à des crédits, non pas à des crédits, des petits crédits, mais à des gros crédits? Parce que pour nous, ces femmes qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience doivent être en mesure aujourd'hui d'avoir ou bien de créer des entreprises au vrai sens du mot pour pouvoir participer à la création de la recherche et aussi à absorber le chômage qui touche particulièrement les femmes et les jeunes.
Quelque chose par rapport à ça?
Oui, oui, madame. Et
la stratégie adoptée par CARE, qui est le renforcement des capacités, CARE a injecté dans la promotion de l'individu. C'est ça qui a fait que la mobilisation de ces ressources-là, des ressources propres qui ne sont pas cherchées d'ailleurs injectées. Quand tu sais que pour avoir les 25 francs-là, tu as transpiré et c'est ton propre argent, tu prends soin de ça et tu sais quoi faire avec.
Ça, c'est sûr.
Et si on te montre le chemin, tu as un appui, on peut mobiliser plus de 2 milliards. Si tous les paramètres sont pris en compte, ça, ce n'est que l'argent espèce à ce qu'on a pu
capter. Oui, en 2017.
Merci, madame Memouna. Nous avons quand même eu à le notifier pour dire que si magie il y a, c'est la magie du mouvement MMD. Ce qui a fait aujourd'hui le succès du MMD, c'est que c'est un mouvement qui se base non seulement sur la tontine traditionnelle, mais sur des éléments fondamentaux tels que la solidarité du groupe et l'affinité.
L'affinité.
Quand les membres du groupe entre elles. Et je pense que c'est ça et qui fait qu'aujourd'hui, des groupes créés de 91 survivent.
Ouais.
Nous avons des femmes qui étaient là depuis les premières heures jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Il y a quand même toute une documentation qui est faite, des films, etc., etc., pour montrer vraiment le dynamisme de ce mouvement. Aujourd'hui, elles sont là, elles font des plaidoyers pour que des écoles puissent être construites pour les jeunes filles dans les villages les plus reculés, parce que quand même, entre autres obstacles pour la scolarisation de la jeune fille aussi, c'est le fait que les filles doivent quitter leur village pour un autre pour aller fréquenter le secondaire. Mmh. Donc ça, nos femmes sont un peu partout, et d'ailleurs mieux dans certaines régions comme Maradi et Zinder. Elles ont développé une stratégie de parrainage. C'est nos femmes elles-mêmes qui parrainent les autres filles de leur communauté ou bien des communautés voisines.
Mm-hmm.
Donc, chacune prend en charge ce que je peux vraiment apporter. Ou tout simplement, le cas de Zinder, on a vu des groupements et des réseaux de femmes qui se sont concertés pour cotiser, par exemple, tout ce qu'il faut en termes de céréales pour l'alimentation des filles. Par exemple, si c'est une tasse de 1000, toutes les membres du groupe Abouen du réseau, chacune apporte la tasse de 1000. Maintenant, cette quantité récoltée-là leur permettra de mettre une partie pour leur consommation des filles et une autre peut-être pour revendre, les acheter, les savons, les produits d'hygiène, etc. etc. On a vu toujours dans la région des Zinder et un peu à Maradi, des femmes qui ont construit même des dortoirs dans leur siège de fédération, dans leur siège de réseau, des dortoirs, et qui ont pris des gardiens et des nounous pour pouvoir vraiment faire abriter ces jeunes filles et puis les aider pour leur scolarité.
Mmh, d'accord. L'intégration des femmes au sein des MMD au Niger reste donc ouverte à toutes les femmes. Avec le temps, ces femmes ont vu leur capacité économique se rehausser. Et cette économie est bien sûr basée sur la tontine, n'est-ce pas? Donc, pour illustrer un peu cette situation, je vous propose de suivre quelques témoignages de femmes recueillies à Niamey, à Kolo et à Koni par la rédaction Femmes du studio Kalongo.
Stimuler les autres femmes au sein des communes de Niamey, mais aller aussi à l'intérieur du Niger pour dire aux femmes, levez-vous, allez vers une meilleure structuration pour accéder à des instances de prise de décision et faire entendre votre voix. Il y a beaucoup de cas où, rien que pour évacuation sanitaire, il faut aller réveiller les femmes MMD pour avoir de l'argent parce qu'elles ont de la liquidité, elles sont utiles à la communauté. Et les témoignages sont nombreux qui montrent comment ces femmes-là apportent leur soutien au sein de leur famille. Il y a des femmes qui ont créé des entreprises. Chaque femme arrive à se faire confiance, à comprendre qu'elle est capable de, avec ou sans, grâce à l'esprit de solidarité qui est là, grâce à la stratégie qui est l'épargne. Moi, j'aurais été ministre de la promotion de la femme. Je prendrais le MMD comme modèle de développement. Et je sais que je réussirai.
Avec Idia Doubara comme partenaire de cœur, elle nous a formé beaucoup. Autonomisation économique de la femme, implication des femmes dans les prises de décision. On fait la vente du sang. Notre activité principale, c'est le jardinage. Les femmes, les groupements, ont leur propre jardin à elles. On a fait des petits comités avec lesquels on travaille. Actuellement, on a un dépôt pharmaceutique propre à la fédération, composé de 13 unions, 43 groupements, 881 membres. On a des plans d'action. On a un règlement intérieur. Il faut être membre du MMD pour faire accès à tout cela. On gagne beaucoup. Avec les revenus que nous payons, les scolarités de nos enfants, toutes les petites dépenses, on les trouve dans le jardinage. Chaque fois qu'il y a des réunions ou bien des sessions, la place du MMD est réservée. On nous écoute.
MMD a beaucoup lutté dans notre commune. Il a appuyé les femmes dans les banques céréalières, dans les formations, la commercialisation, formation, fonctionnement. Aujourd'hui, les villages, les hameaux connaissent bien les femmes des fédérations, des groupements, parce qu'on fait des tournées pour sensibiliser les femmes pour beaucoup. Lutter pour l'escolarisation de la jeune fille et leur maintien à l'école et le mariage précoce aussi. On aide les hommes pour la condition de la maison. Car a beaucoup lutté. Aujourd'hui, nous-mêmes, on peut faire la campagne. On a beaucoup d'activités. On a eu des appuis. Nos activités aussi qu'on a fait, on a des bénéfices. Si on fait des réunions, il y a les femmes du groupement. Si on fait les sessions, il y a les femmes du groupement.
Donc, que pensez-vous de ces témoignages, Madame Maïmouna?
Les témoignages ne font que confirmer ce que nous venons de dire. Et il est indéniable que l'appui, en tout cas la contribution des groupements MMD dans le développement local et même national, elle est très, très, très importante.
D'accord. Donc, et vous, Madame Amina?
Et elle confirme le travail que CARE et ses partenaires sont en train de faire sur le terrain auprès des femmes rurales et des femmes urbaines. Parce que ce modèle, pour mesurer son succès, c'est un modèle qui a été pensé et qui est mis en œuvre auprès des femmes rurales qui aujourd'hui s'est transportée dans les zones urbaines et parmi lesquelles à Niamey. Aujourd'hui, à Niamey, qui est la capitale du Niger, le MMD est présent. Les femmes sont là. Le MMD regorge aujourd'hui des femmes de tous les statuts sociaux, des femmes ministres, des femmes parlementaires, des femmes chefs d'entreprise, des femmes élus. Donc, tous les statuts sociaux sont représentés au sein de ce mouvement, comme quoi c'est une preuve que c'est un modèle viable, c'est un modèle qui a démontré ses preuves. D'où d'ailleurs l'adoption en 2017 par le ministère de la Promotion de la Femme comme approche probante d'autonomisation économique des femmes. C'est ce que j'ai envie de dire à une des intervenantes qui a témoigné que le ministère aurait dû s'appuyer sur le MMD comme stratégie. Le ministère l'a fait, mais ce qui reste pour le ministère, pour CARE et surtout pour elle, les femmes, c'est la mise en œuvre et du plan d'action qui a été validé l'année passée par le ministère en partenariat avec CARE.
D'accord. Donc, maintenant, selon vous, Madame Maïmouna, à part les activités génératrices de revenus, est-ce qu'il y a d'autres activités fondamentales qu'elles exercent?
Amine a eu à le dire. Elles ont, indépendamment des activités génératrices de revenus, pour générer des revenus, pour couvrir les besoins pratiques, maintenant, elles aspirent aux besoins stratégiques. Et les besoins stratégiques, c'est quoi? C'est vraiment la promotion à plusieurs niveaux, notamment dans les instances de prise de décision. Donc, indépendamment des activités génératrices de revenus, les groupements MMD mènent beaucoup de plaidoyers pour vraiment pour apporter un changement dans le quotidien de leurs sœurs et vraiment pour la prise en compte des inégalités et disons de l'équité et de l'égalité de genre. Je m'explique. Par exemple, au niveau des élections, ce que le ministère s'est beaucoup basé sur les femmes leaders au niveau des MMD pour sensibiliser les autres aux élections de 2011. Pour vraiment sensibiliser les femmes à postuler et à aller voter. Donc, indépendamment de ça, dans le domaine de la scolarisation de la jeune fille, Elle a bien dit, il y a beaucoup d'actions qui sont menées également dans le domaine de la santé, en tout cas au niveau de la communauté. Ces groupements mènent diverses activités. Notamment, il y a même des, je ne sais pas, c'est dans un village de la région de Dosso. Oui, même des n'a pas intervenu. Ah,
c'est bon. La telle phase qui...
D'accord.
C'est seulement à Agadez. Où le MMD n'a jamais
en tout cas, je sais que c'est
programme.
Dans un village où c'est pas un village d'intervention, mais les femmes ont copié le modèle et vraiment elles ont eu à construire une case, un local pour abriter les élèves des villages environnants. C'était à Amad, je ne sais pas si vous avez ça fait partie.
D'accord.
Donc, indépendamment de ça, des activités génératrices de revenus, ces femmes vraiment interviennent dans le domaine du plaidoyer, vraiment pour améliorer la participation de la femme aux instances de prise de décision.
Mmh. Allons maintenant à la rencontre d'une femme exceptionnelle qui, par son aptitude et son professionnalisme, lutte pour une meilleure autonomisation de la femme. Elle a commencé à travailler avec les groupements MMD en 2002 à Zinder dans le cadre d'un projet santé reproductive. Il s'agit du docteur Fatoumata Zenou, 20 ans d'expérience dans la conception, mise en œuvre des programmes dans le domaine d'égalité de genre, voix des femmes, santé, nutrition à Caire, Niger. Fatoumata Zenou a commencé sa carrière à Caire International en 1999. Elle y est toujours 20 ans après, 20 ans de conception et de mise en œuvre de programmes dans le domaine de l'égalité de genre, la participation des femmes, la santé et la nutrition. En 2002, elle découvre les groupements MMD à Zinder dans le cadre d'un projet de santé reproductive.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir le potentiel qu'il y a au niveau de MMD et on avait conçu le premier projet dans lequel on a une intégration des activités MMD avec la santé.
Pour Fatma, travailler avec les groupements existants Mata Masoudoubara, femme ingénieuse, était un moyen d'augmenter les chances de réussite et d'impact.
J'ai été une des personnes qui a contribué à la promotion de l'intégration des groupements MMD dans les différents programmes. Et aujourd'hui, Caire Niger ont décidé que les groupes MMD sont la porte d'entrée pour les différentes interventions, que ce soit en matière de nutrition, de santé reproductive ou de programmes d'agriculture, d'accès à la terre, d'accès à l'eau, etc.
Née en 1966 à Azel, dans la région d'Agadez, mère de deux enfants, le docteur Fatoumata Zenou est détentrice d'un doctorat en médecine au Niger. Claire, d'allure juvénile, Fatma est un vrai leader disponible, bienveillant et social. Témoignage d'Ahmed Dawalak qui travaille en étroite collaboration avec elle.
Je pense au-delà de ses compétences techniques, une personne qui a aussi l'art de manager quand même de les staffs, de les encourager, une personne qui met un peu de la rigueur dans son travail, qui aide beaucoup au-delà de country, je pense, de Caire Niger en tant que bureau pays en matière de comment comprendre un peu cette question d'empowerment des femmes, l'autonomisation des filles. On profite beaucoup de ses conseils et de son coaching.
Fatma Zenou est désormais chargée de développer les MMD à l'international. L'un de ses succès remonte à 2009. Il s'agissait de former des femmes MMD sur le leadership féminin à Zinder. L'objectif était de doubler l'effectif des jeunes filles à l'école, un souvenir fort.
Et c'est comme ça que ces femmes ont mis en place une stratégie endogène où chaque femme était responsable d'inscrire une fille de sa voisine, de son amie ou simplement une connaissance qu'elle a et qu'elle sait que cette fille n'a pas eu accès à l'école.
Fatma Zenou pense que l'autonomisation de la femme ne doit pas se sentir que dans les bureaux ou à l'extérieur. Elle doit aussi exister dans les maisons et dans les familles. Les jeunes filles surtout doivent apprendre à se lever et à se développer. Donc, quelle est votre appréciation, Madame Amina?
Personnellement, elle ne peut être que positive. Pourquoi? Voilà un programme que Caire a mis en œuvre et que Caire même au départ ne pensait pas que ça allait prendre une telle envergure. Et moi, en tant que staff de Caire aujourd'hui dans ce même programme, et c'est quand même une occasion, une chance pour moi de collaborer avec des anciens qui ont quand même passé là où je suis aujourd'hui et qui ont apporté leur contribution de ce qui est devenu le programme aujourd'hui. C'est de façon pratique que ce programme est édifiant, que ce programme transforme les femmes et que ce programme transforme aussi le staff qui y travaille.
Et vous, Madame Maimouna, votre réaction
par rapport au portrait, oui. Moi, je sais que c'est une femme très battante et vraiment, on a beaucoup collaboré avec elle à travers le ministère. Et le fait que le mouvement MMD ne se limite pas seulement à la mobilisation des ressources et que d'autres secteurs, notamment la nutrition, la santé et autres, ça a permis d'élargir et de renforcer les capacités de ces femmes-là à intervenir dans les différents secteurs de l'autonomisation. Parce que l'autonomisation, ce n'est pas seulement économique.
Et comment améliorer encore plus la situation des MMD? Bien sûr, elles évoluent, mais qu'est-ce que vous comptez apporter pour une évolution encore meilleure? Oui, allez-y, Madame
Donc,
Maimouna.
Par rapport à ce point, le ministère de la Promotion de la Femme, comme elle l'avait dit, a adopté en 2017 une stratégie d'autonomisation économique de la femme. Dans cette stratégie, le ministère reconnaît et a mis comme socle de cette stratégie le mouvement, la stratégie MMD. Donc c'est une connaissance officielle de la contribution de ce truc. Et qu'est-ce que le ministère compte faire? C'est vraiment la mise à l'échelle de cette pratique-là et également la création d'un cadre de concertation des acteurs intervenant dans le domaine de l'autonomisation de la femme qui est mis en place et l'installation va intervenir incessamment. C'est une façon à travers ce cadre-là d'amener tous les partenaires à intervenir dans le même domaine, à adopter ce modèle-là pour un passage à l'échelle vraiment nationale de cette pratique des groupements MMD.
Ce que CARE est en train de faire, c'est vraiment cette mise à l'échelle de ces groupements MMD sur l'ensemble du pays et dans toutes les communes par la stratégie Un village, un AV. Les AV, c'est les agents villageois qui aident à la création et à l'accompagnement des groupes de femmes que CARE même paye à travers les ONG locales de mise en œuvre. Comme l'État dit, le développement même, c'est à travers les communes. Nous avons 266 communes. Et si nous arrivons vraiment à avoir un partenariat à travers le ministère, par exemple, en tant que stratégie nationale, de travailler directement avec les communes pour leur faire comprendre ce modèle MMD, en quoi c'est important pour ces communes, pour pouvoir amorcer le développement à la base. Mmh. Et il y a également la plateforme des utilisateurs du modèle MMD à apparenter, que CARE a mis en place en 2017, qui réunit un certain nombre d'ONG internationales, notamment CRS, Merci Corps, Plan International, World Vision, PRODAF, qui est un projet de la Banque mondiale avec l'État, et DSMI, qui sont déjà des acteurs qui utilisent cette approche MMD, avec lequel nous sommes en train de mener des actions en synergie et de réfléchir et puis de sauvegarder.
Maintenant, que conseillerez-vous à ces femmes après 25 ans d'existence?
Et c'est de s'engager beaucoup plus davantage et de faire en sorte qu'elles puissent s'imposer, notamment dans le domaine politique. Mais nous voulons qu'elles s'imposent dans le domaine économique. Ce modèle est né au Niger et a été repliqué un peu partout à travers le monde. Donc, les conseils pour nous, c'est qu'elles doivent se battre pour qu'elles aient accès à des gros crédits pour avoir des grosses entreprises. Parce qu'on ne peut pas bénéficier d'une éducation financière durant 25 ans et être toujours au niveau des AGR. Ce n'est pas normal. On sait que tout le monde ne peut pas devenir des entrepreneurs. Mais il y a certains maintenant qui prennent cette question d'entrepreneuriat comme une vocation, qui vont vraiment embaucher des centaines de jeunes femmes et garçons nigériens.
Mmh. Et vous, Madame Maimouna, quel conseil leur apportez-vous?
Nous voulons que ces femmes-là émergent, qu'elles dépassent le niveau mini-mini pour atteindre vraiment un seuil de développement assez consistant et qui va attirer pour mériter le respect des hommes et des femmes et des décideurs aussi.
Pour discuter de cette thématique sur les organisations des femmes Matamassou Doubara, communément appelées MMD, comment ont-elles évolué depuis leur création, leur activité et leur philosophie interne, nous étions avec Madame Aminatou Daouda Haynikwai, chef du programme promotion de l'équité et égalité sociale et de la société civile Promesse à Caire Niger, et Madame Niandou Maimouna, chef de division allègement des tâches des femmes entrepreneuriat féminine à la direction de l'autonomisation économique de la femme. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous des programmes du studio Kalangou demain à partir de 17h sur nos 38 radios partenaires. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal sur WhatsApp au 80 06 88 54. C'était Rafika Attaher à la présentation et Abdullah Yakouba à la technique. Avant de terminer le forum de ce soir, voici notre rubrique Affairage, une causerie féminine destinée à nos auditrices.
Affairage, 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 affairage.
Regarde devant toi, non?
Excuse-moi, je suis ailleurs.
Mais c'est Aïcha.
Hey Fatou, comment tu vas?
À moi plutôt de te demander comment ça va. Tu m'as l'air très inquiète.
Je te dis.
Raconte. Si je peux t'aider, je le ferai volontiers.
Ma chère, c'est mon époux. Il rentre tard, 2h, 3h du matin. En plus, il est alcoolo. Et quand je me plains, il me bat. Je suis fatiguée, je veux divorcer. Je ne sais pas comment faire.
Ah, c'est donc ça. Écoute bien, ma belle. Tu sais, au Niger, quand un homme ne veut plus de sa femme, il la répudie simplement et on n'en parle plus. Mais quand c'est la femme qui désire se séparer de son époux, elle doit saisir le juge de la commune. Cependant, Aïcha, la procédure est parfois longue et pénible.
Longue et pénible, tu dis?
Eh oui. Dans un premier temps, rends-toi à la commune de ton quartier où tu saisiras le juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières et dans les départements. Ce sera le président du tribunal d'instance. Cette saisie peut être verbale ou écrite. Là, le juge te remettra une convocation que tu remettras à ton mari et devant un témoin.
Pourquoi devant un témoin?
Pour t'assurer qu'il ne va pas nier avoir reçu la convocation.
Ah, ok, je vois. Il en est capable.
Cette convocation permettra au juge de vous écouter ensemble. Dans un premier temps, il va tenter une conciliation car la loi l'y oblige.
Encore? Non, je suis fatiguée. Je ne veux plus attendre. Je suis à bout de force là. Vraiment.
Aïcha, cette étape est nécessaire. Et après ça, le juge peut encore vous donner un délai de réflexion qu'il peut même renouveler s'il pense que c'est nécessaire. On ne sait jamais. Vous pouvez changer d'avis.
Vivre avec lui? Jamais. Je n'ai plus rien à lui dire. Une autre déception? Non, c'est bon. J'ai assez pleuré comme ça.
Si le juge sent que tu es déterminée, il ouvre votre dossier et tu seras encore entendu sur procès verbal si tu n'as pas fait de requête et que tu n'es pas assisté par un avocat.
Un avocat? Mais on sait que ça coûte cher de les engager.
Non, pas tous. Il y a des avocats dans ce pays qui ne te demandent pas grand-chose pour t'accompagner dans ta procédure de divorce. Il suffit juste de te renseigner.
Je fais comment alors?
Le juge a l'obligation de veiller au respect des droits de la défense, au principe du contradictoire, au principe du procès équitable et à l'égalité des armes. Mais si jamais tu estimes que tes droits sont lésés ou bafoués, tu as le droit de demander la récusation du juge, qu'il soit remplacé par un autre. Tu écris tout simplement au juge du tribunal de grande instance.
Ah bon? Ok, j'ai compris. C'est peut-être long et difficile, mais je suis décidée.
Affairage, 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 affairage.